Bonsoir à tous et merci d'être présents à cette quatrième session consacrée aux origines de la pensée bouddhique. Aujourd'hui, nous allons voir la suite de ce qui a été vu la fois dernière. Donc, je voudrais résumer un petit peu ce qui a été vu, de façon à ce que nous l'ayons bien présent à l'esprit. Nous avons donc commencé à traiter, voilà, pour rappel, j'ai marqué un petit peu au tableau le système dit des quatre. Alors, c'est peut-être pas écrit très gros, je crains. Enfin, je vais dire ce qui est au fur et à mesure ce qui est écrit. Donc, on a commencé à voir le système dit des quatre vérités, qui est l'un des tout premiers enseignements du bouddhisme. Donc, en tant que premier enseignement du bouddhisme, c'est donc un système, on peut dire, qui est à la frontière entre la pensée non bouddhique et la pensée bouddhique. C'est-à-dire que ce n'est sans doute pas l'un des concepts les plus profonds du bouddhisme, mais c'est un système qui était destiné à l'origine à des non-bouddhistes. Vous vous rappelez donc ce que je vous avais dit la fois dernière, que le Bouddha, après avoir eu l'éveil qui a été le sien, a voulu rejoindre les cinq autres ascètes qui avaient été ses compagnons d'études, ses co-disciples, et qui étaient partis, eux, à Bénarès. Il a fait une très longue marche, il a réussi à les trouver à Bénarès, et là, vis-à-vis de ses compagnons, il s'est présenté à eux sous un jour qui est nouveau, c'est-à-dire en tant qu'éveillé, et il leur enseignait cela. Donc c'était, on peut dire, les premiers mots de l'enseignement du bouddhisme. Le Bouddha étant quelqu'un qui était extrêmement pédagogue tout au long de sa vie, au fur et à mesure, il a sans doute abordé des enseignements plus profonds que celui-ci. Mais celui-ci est destiné à être compris, ou du moins accepté, par même un auditoire tout à fait pas spécialisé, et déjà il recèle quelques-uns des principes très profonds du bouddhisme. Alors, ce système des quatre vérités, quand nous le regardons dans les textes, il y a plusieurs des premiers textes du bouddhisme dans lesquels il apparaît, et là j'ai pris un extrait d'ailleurs que j'ai traduit d'un texte qui s'appelle le Sutra de la mise en mouvement de la roue de la loi, que je vous avais lu la fois dernière, que je vais relire un petit peu cette fois-ci en le commentant à partir de ce que nous avons vu justement à la dernière session. Et ça nous permettra d'enchaîner directement sur ce qui est nouveau, c'est-à-dire ce que nous allons voir aujourd'hui. Ce qui est important, d'une certaine manière, c'est que au moins ce que nous avons vu la fois dernière, nous l'ayons présent en tête et que ce soit bien perçu. Donc s'il y a des choses qui semblent floues, pas très claires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'interrompre, parce que je préfère qu'on voit bien les choses d'une manière précise, plutôt que je continue tout seul dans mon sillon. D'accord ? Alors, donc, cet extrait donc, de l'un des premiers sermons du Bouddha, où il s'adresse aux cinq compagnons qu'il a retrouvés, le voici. « Ô moine, la naissance est souffrance, la vieillesse est souffrance, la maladie est souffrance, la mort est souffrance, la fréquentation de ceux que l'on déteste est souffrance, la séparation d'avec ceux que l'on aime est souffrance, la non-obtention de ce que l'on désire est souffrance, et finalement, tout ce qui touche au corps ou à l'esprit est souffrance. Telle est la noble vérité quant à la souffrance. » Je m'arrête ici, dans la citation, pour la commenter un petit peu. La fois dernière, je vous ai parlé du système des quatre et des huit souffrances. Donc ici, c'est tout à fait énuméré, c'est-à-dire qu'on parle en premier des quatre souffrances, c'est-à-dire la naissance, vieillesse, maladie et mort. Ce sont quatre étapes, on pourrait dire biologiques en quelque sorte, de la vie. Qui est propre à toute vie naît pour qu'elle existe, toute vie vieillit, toute vie peut être en proie à des dysfonctionnements qui représentent ce que nous appelons la maladie, et toute vie se termine. Ensuite de quoi, à ces quatre premières souffrances, mais qui sont fondamentales. Ce qui est important aussi de voir, c'est que dans ce premier exposé du bouddhisme, il parle aux personnes de choses qu'ils connaissent. C'est-à-dire, je reviendrai sur ce point à la fin de l'exposé qu'on aura vu, les quatre vérités, qu'on aura vu un peu comment, non seulement la définition de chacune d'entre elles, mais comment fonctionne le système globalement. Mais, immédiatement, les premiers mots, on peut dire, d'enseignement du bouddhisme parlent à l'auditoire qui était présent de choses que eux-mêmes connaissent, c'est-à-dire des choses qui sont liées à la souffrance même de la vie. À ces quatre souffrances qui sont liées au corps, au phénomène même que le corps existe, que l'on naisse, etc., il ajoute des souffrances que l'on pourrait davantage dire d'ordre psychologique. En ce sens, où il dit, et donc là c'est des choses très très dures de l'existence, il dit la séparation d'avec ceux que l'on aime est souffrance, et la fréquentation de ceux que l'on déteste, donc là c'est l'inverse malheureusement, est souffrance. La non-obtention de ce que l'on désire, sur ce sentiment de frustration qui suit le fait de ne pas, c'est non seulement le fait de ne pas pouvoir obtenir ce que l'on désire, mais le fait que le désir est toujours naissant. C'est-à-dire qu'il y a quand même, il y a des fois, faut pas être, c'est pas un constat totalement pessimiste, il y a des fois où l'on obtient ce que l'on désire, bien entendu. Hein. Mais, une fois que la chose est obtenue, c'est le propre du vivant, il y a autre chose que je veux. Et donc finalement, le désir est toujours lié, on verra, à une notion de frustration. Le dernier point, et finalement tout ce qui touche au corps ou à l'esprit est souffrance, je ne m'étais pas beaucoup appesanti parce qu'on le verra beaucoup plus en détail lorsque nous étudierons un autre système qui s'appelle celui des 12 liens causaux, et où là il y a quand même l'idée qu'en sorte le fonctionnement de l'entité corporelle psychique que l'on représente, ce fonctionnement en lui-même est déjà une sorte, on pourrait dire, de souffrance sourde. Vous voyez, c'est pas gai cette première vérité. Je vous en ai parlé peut-être pour comprendre ça un peu par comparaison avec un appareil qui produit une sorte de bruit continu, pas forcément un bruit fort, mais un bruit continu. Au moment où d'un coup l'appareil s'arrête, c'est quelque chose qu'on a tous expérimenté, on a l'impression d'un soulagement. Vous voyez ce que je veux dire ? Un appareil électrique ou un frigo ou je ne sais pas quoi exactement, il y a une sorte de bruit de fonctionnement que l'on ne remarque pas. Mais, d'un coup, le bruit de l'appareil s'arrête et on se sent mieux. Ça fait quelque chose en moins. Et donc là, il parle, donc dans cette huitième souffrance, d'une sorte de souffrance qui est liée au fonctionnement même de l'être. En même temps, je vous avais dit la première fois que c'est quelque chose qui est peu remarqué, mais que je crois que dans toute une bonne partie de cette pensée du bouddhisme à ses origines, du bouddhisme primitif, il y a on avait vu que le Bouddha est issu de la caste des kshatriyas, des guerriers. Et je crois qu'il y a une notion dans le bouddhisme à son origine, non pas guerrière, mais au moins stratégique. Parce que tout ça, ce sont des concepts qui font partie d'une démarche armée, d'une démarche militaire. Identifier l'adversaire. Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour défaire l'adversaire ? Il n'y a pas à se tromper d'adversaire, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire non plus. Donc voilà cette première vérité, telle qu'on avait vue. Bon, là je passe évidemment plus rapidement que la fois dernière, qui est celle de la souffrance. La deuxième, c'est celle de l'apparition, c'est-à-dire celle, cette souffrance est un état de fait, mais qu'est-ce qui rend cet état de fait possible ? C'est-à-dire quel est le terrain favorable pour que se développe cette chose ? Alors, ce terrain, on pourrait dire, de l'apparition de la souffrance, il en parle ainsi. Et maintenant, ô moine, menés dans le cycle des renaissances, nous sommes avides de joie. Partout, un désir puissant nous fait espérer plaisirs et bonheurs. Il s'agit de l'attachement au désir, à l'existence et à l'anéantissement. telle est la noble vérité de l'apparition de la souffrance. Alors là, il y a des choses tout à fait nouvelles vis-à-vis de ce qui était dit précédemment qui sont amenées. C'est-à-dire qu'en fait, il dit nous sommes avides de joie. C'est-à-dire qu'en fait, cette souffrance existe parce que justement, on cherche l'inverse. Alors, on verra que dans la pensée bouddhique, il y a souvent des choses qui sont, cause et effet, mais qu'on peut retourner et qui sont effet. Enfin, ce qui était avant l'effet devient la cause et inversement. C'est-à-dire que souvent, on le verra dans d'autres principes, sont des choses qui fonctionnent d'une manière circulaire. C'est-à-dire qu'on peut faire effectivement le cercle dans un sens, mais une fois qu'il était fait dans un sens, on revient au début et ça repart dans le même sens. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette souffrance parce que justement, c'est l'inverse que nous voulons. C'est un point de vue qui est assez fort. C'est-à-dire que c'est parce que nous recherchons des joies, et que nous sommes tous à rechercher d'une manière contradictoire entre nous différentes formes de joie, différentes formes de plaisir, peut-être justement pour échapper à la souffrance, que du coup nous en créons davantage. Partout, un désir puissant nous fait espérer plaisirs et bonheurs. Il s'agit de l'attachement au désir, à l'existence et à l'anéantissement. Telle est la noble vérité de l'apparition de la souffrance. Alors, quelques mots là-dessus. Il y a je vous l'avais dit la fois dernière, le bouddhisme distingue très nettement une chose qui peut-être en français, ou au niveau de la langue, n'apparaît pas aussi nettement que cela, c'est-à-dire dans le désir, quand on emploie nous le mot désir, en fait, il y a deux choses qui sont contenues. Il y a le désir, c'est-à-dire la force pulsionnelle du désir, et il y a l'objet du désir. Pour nous, c'est pareil. Mais je crois que justement, dans cette espèce de raccourci qui fait que l'on identifie la force elle-même du désir à l'objet du désir, ça prouve bien, cette espèce d'omnubilation de la force du désir. Le bouddhisme, donc, distingue trois sortes ici de désirs. Il y a d'autres listes dans lesquelles on en trouve infiniment plus. La première, on pourrait dire que c'est l'attachement aux désirs eux-mêmes. Je les avais énumérés la fois dernière. Je vais les reprendre pour qu'on en ait une vue un peu plus précise. Alors, les désirs, on a vu qu'il y avait cinq sortes de désirs. Il y a deux listes de cinq, hein, d'ailleurs, une probablement qui est assez ancienne et l'autre qui est plus récente. La première, c'est l'objet de satisfaction des cinq sens perceptifs, que sont la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher. C'est-à-dire le fait d'amener des perceptions, qu'elles soient visuelles, sonores, tactiles, etc., qui procurent un plaisir à l'individu. L'autre explication qui est plus tardive et donc qui est déjà plus, réfléchie d'une certaine manière, ces cinq désirs sont les biens, donc les biens matériels, la sexualité, la nourriture et la boisson, la renommée et le sommeil. Vous voyez que dans toutes ces listes de désirs, le bouddhisme ne distingue pas de désir primordial, contrairement à des pensées même occidentales nettement plus modernes, parce que ils pensent que ces désirs, en quelque sorte, travaillent pour leur propre compte. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait que je satisfasse tel ou tel désir qui fera que je pourrais, par exemple, me passer de sommeil. Ni que j'aurais besoin de sommeil pour autant. Mais c'est sûr que dans la journée, normalement, je ne suis pas omnubilé, enfin à moins que je te rende dans un état assez lourd, par le désir de sommeil. Mais c'est quelque chose que la vie désire, c'est quelque chose que le corps, que l'esprit désire. Également. Et donc, il y a cet attachement au désir, donc il y a deux sortes de cinq désirs. Il y a l'attachement à l'existence. C'est ce qui nous fait continuer à vivre. Ça peut s'exprimer même sous la forme de l'instinct de survie, de préservation, également sur des choses qui peuvent transcender l'individu lui-même, sur le fait que je désire avoir une descendance, par exemple, c'est la même chose. Et il y a également donc la troisième forme d'attachement, qui est exactement l'inverse, c'est-à-dire qui est l'attachement à l'anéantissement ou à l'inexistence. C'est ce qui pousse également à se détruire de mille et une manières. Donc on voit que le bouddhisme, d'emblée, prend une vue assez large et accepte que s'expriment en nous des désirs même extrêmement contradictoires. Parmi ces désirs, ce qu'on appelle des attachements contradictoires, il n'en relève pas un comme étant fondamental et dont tout découlerait. Il se tire même des désirs qui sont, on pourrait dire, antagonistes. Par exemple, ce que j'ai mentionné, c'est-à-dire le désir à l'existence et le désir à l'anéantissement. Les deux à la fois fonctionnent. Donc je crois que dès d'entrée de jeu, le bouddhisme prend une vue qui est très large, très vaste. Et il reconnaît dans les capacités psychiques de l'individu, dans les motivations de l'individu, des choses tout à fait diverses et antagonistes, et qui nous constituent. On le verra par la suite, mais il y a assez peu dans le bouddhisme l'idée d'un, je sais pas comment dire, d'un fil que l'on pourrait tirer et qu'il y a tout qui vient derrière. Ce n'est pas une vue simplificatrice de la vie. Au contraire, c'est une vue qui est assez lucide, vigilante, qui demande à apprendre sur la vie et qui regarde dans les comportements, dans les différents phénomènes, qui essaye d'en tirer toute la diversité. Donc, on a vu pour l'instant les deux premières des quatre vérités que j'ai mentionnées ici, c'est-à-dire celle de la souffrance et celle du terrain apparitionnel de la souffrance. Ce sont les deux choses qu'on a vues la fois dernière. Est-ce que ça, c'est à peu près clair? C'est clair. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a de la souffrance qui existe parce qu'il y a un terrain apparitionnel à cette souffrance. Alors maintenant, on va voir les deux DL. Donc là, aujourd'hui, c'est quand même un petit peu plus gai que la fois dernière. Donc on va voir les deux autres vérités qui forment ce système des quatre vérités, puis on va voir comment le système fonctionne sur lui-même. Alors la troisième, c'est la vérité de l'extinction. Alors quand on en parle dans le texte que je vous ai cité, il en parle assez brièvement, et il dit « Mais au moine, que cette soif et ces désirs soient apaisés, sans reste, abandonnés, écartés sans attachement, voilà la noble vérité de l'extinction de la souffrance. » Donc là, il y a l'idée que pour éteindre la souffrance, on ne peut pas directement agir sur la souffrance. Il faut agir sur la cause de la souffrance, c'est-à-dire le terrain apparitionnel. C'est-à-dire qu'il faut priver la chose de combustible, de munitions, pour que finalement elle ait moins de force. Alors, cette vérité de l'extinction, donc, qui est ce dont on va parler aujourd'hui avec l'autre et dernière vérité, celle de la voix. Alors, la vérité de l'extinction. En sanskrit, ça se dit Nirodha. Et ça vient du verbe Nirud, qui signifie bloquer, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre comme obstruer, bloquer, réprimer. Donc je pense que l'on voit assez bien l'idée. Donc c'est, à un moment donné, on bloque un processus qui va se faire. Et vu qu'il est bloqué à un niveau, premier de sa manifestation, la chose ne va pas plus loin.
C'est en sanskrit, monsieur.
Pardon ?
C'est du sanskrit ?
Oui, c'est du sanskrit, madame. Donc en sanskrit, on dit nirodha, donc qui est un substantif, qui vient du verbe nirud. Alors, les Chinois l'on traduit par le caractère miel. Qui s'écrit comme ceci en chinois.
J'ai un problème de le stylo.
Alors le caractère mie qui se dit également mesu en japonais, on va voir un petit peu quel est le sens, de quelle manière les Chinois ont compris le sanskrit pour le traduire. Alors ce caractère, en fait, il y a deux éléments dedans qui sont importants, et on va voir que ces deux éléments nous donnent tout à fait la clé de la traduction avec extinction que j'ai fait. Le premier se trouve ici. Je vais les écrire mieux à côté, et le deuxième se trouve là. Alors ce premier, c'est ce qu'on appelle la racine, cette partie de droite, qui s'écrit avec trois traits, comme ceci, qu'on trouve dans beaucoup de caractères chinois, ça signifie l'eau. En fait, le caractère complet qui permet d'écrire l'eau s'écrit comme ceci. Mais ça, c'est le caractère complet. Quand on s'en sert de clé pour écrire et pour fabriquer d'autres caractères par adjonction d'autres idéogrammes, en général, ce sont ces trois traits-là que l'on a. C'est cette partie, donc, ici, à gauche du caractère. L'autre partie qui est importante, et qui est ici, donc celle-là, eh bien, c'est le feu, qui s'écrit normalement comme il est ici, mais en plus grand. Où on voit bien une sorte de boucher, une petite flamme qui s'élève ou quelque chose comme ça. Et donc, nous avons l'action de l'eau sur le feu, et la chose donc signifie l'extinction. Le sens est d'éteindre comme on le fait lorsqu'on verse de l'eau sur un feu. Donc c'est pour ça que je traduis par extinction. Donc on voit que l'on est pour revenir à ce que nous avions au début, c'est-à-dire que nous sommes dans cette idée, c'est-à-dire qu'il y a de la souffrance qui existe, en fait de la souffrance, je dirais lourde, en quelque sorte une tendance lourde à la souffrance, dès le début de la vie, dès la naissance, par le simple fait de naître, qui physiologiquement c'est sans doute une drôle de chose. Et on ne peut pas, on peut minorer d'une certaine manière la souffrance en se mettant dans le domaine justement des phénomènes et de la souffrance, mais pour arriver à avoir une action réelle, il faut jouer sur les causes même de la souffrance. Et c'est lorsque les causes sont éteintes que la souffrance disparaît. Sans ça, elle réapparaît de manière ou d'autre. Alors, pourquoi cela? Parce qu'on pourrait, je dirais, dans une vue complètement matérialiste, dire, il y a de la souffrance, j'ai mal à la tête, je prends un médicament, je n'ai plus mal à la tête, il n'y a plus de souffrance. D'accord? Donc ça, c'est la vue qui est purement matérialiste, et si vous avez quelque chose qui fonctionne bien, quel que soit le médicament que vous avez mal à la tête, je vous conseille vivement de le prendre plutôt que de rester avec la douleur. Mais le problème, si vous voulez, c'est que, en fait, on est dans la vue que l'on avait vue au premier cours, qui est la vue de la causalité, qui fait que on dit que ce qui arrive à l'individu n'est pas ni le fruit du hasard, ni quoi que ce soit, ce sont des causes qu'il a en lui. Ces causes, il les a en lui. Et il faut qu'il y ait un élément extérieur qui permet que ces causes se déclenchent. Et donc qu'elles passent progressivement d'un état, on pourrait dire, virtuel à un état actuel. Et donc, il y a des phénomènes extérieurs, si vous voulez, qui vont faire qu'il y a des choses, on pourrait dire, réelles, entre guillemets, qui se produisent. Et parce qu'il y a des choses réelles qui se produisent, alors je les ressens. Et donc, je suis heureux de ce qui s'est passé, ça me fait plaisir, ou à l'inverse, j'en suis désolé, il se passe des choses. Et donc, dans ces différents états de joie, de tristesse, de ce que vous voudrez, qui suivent les choses qui se passent dans la réalité, en fait, c'est à ce moment-là que les causes qui étaient en soi nous rejoignent, on pourrait dire, c'est-à-dire se manifestent à nous. Une fois qu'elles se sont manifestées, c'est-à-dire elles n'existent plus. Vous savez, c'est l'exemple que j'avais donné lors du premier cours entre la graine, etc. Ben, la graine, elle va donner naissance à une plante. Ben, une fois qu'elle a donné naissance à la plante, elle a fait son boulot. D'accord ? Bon, c'est un exemple. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, une fois que l'effet est produit, cette cause-là n'existe plus. Donc, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, qui vaut qu'en tant qu'exemple, si j'ai mal à la tête, je prends le médicament, donc je soulage le mal de tête que j'ai, mais s'il y a des causes en moi qui doivent produire même des souffrances beaucoup plus grandes que simplement le mal de tête ou quoi que ce soit, tant que je n'aurai pas travaillé ces causes et permis leur changement, eh ben, il y a d'autres fois dans ma vie où je continuerai à avoir mal à la tête. Alors, c'est un exemple qui vaut que ce qui vaut, si on parle simplement d'une douleur physique, mais on voit bien qu'au niveau des choses qui, qui créent dans notre vie du malheur, c'est-à-dire des comportements que nous pouvons avoir et qui font que, quand on s'y prend comme ça, ça ne marche pas et puis ça me retombe dessus, et à chaque fois c'est quelque chose qui est extrêmement déplaisant pour moi, on est souvent dans des phénomènes de type répétitif. Je crois que c'est quelque chose que chacun de nous a déjà expérimenté. Et parce que nous sommes dans des phénomènes de type répétitif, c'est en jouant sur l'origine de ce qui crée ce genre de mécanisme que l'on peut arriver à casser le mécanisme. Et tant que l'on est à essayer d'apporter des solutions simplement au niveau de la manifestation du mécanisme, en fait, on peut changer les choses, mais c'est toujours quelque chose qui retombe dans un autre cycle. Et donc, on va voir par la suite, ce sera la quatrième vérité, c'est-à-dire de quelle manière est-ce que l'on peut arriver à débloquer le mécanisme. Alors, pour continuer donc sur cette vérité de l'extinction,
toutes les causes de souffrance sont extérieures au niveau aérien. Par exemple, vous êtes écrasé, arnaqué par des voleurs. Vous ne pouvez rien faire et vous êtes écrasé.
Oui, bien sûr.
Alors, vous ne pouvez pas bouger.
Oui. Oui, non, je suis entièrement d'accord. La seule chose qu'on dit, c'est qu'on pense que ce n'est pas agréable d'être écrasé par des voleurs ou arnaqué. Si vous voulez. Donc. C'est sûr que cette idée de la causalité telle qu'elle est vue comme ça, il peut nous arriver des choses qui nous semblent injustes et qui sont douloureuses. Vous voyez ce que je veux dire ?
Là, c'est pas bien, c'est rien fait.
Non, mais je ne dis pas que à chaque chose. Attention, le bouddhisme n'est pas quelque chose de la toute puissance. Hein ? Je ne dis pas qu'à chaque chose qui se passe, on peut faire quelque chose. Le bouddhisme vise à travers une certaine pratique et une certaine connaissance de soi, du monde, etc., à essayer, on le verra, mais d'être lucide et de limiter les dégâts. Comment ?
Le bouddhisme n'est pas une poudre magique.
Non, loin de là. Il y aura toujours des pots de bananes dans les rues, il y aura toujours des personnes déplaisantes, il y aura toujours... Oui, tout à fait.
Si la naissance est une souffrance, pourquoi je suis
là ? Ah oui, mais la naissance, à mon avis, est physiologiquement une souffrance. Bon, on n'en garde pas tous un souvenir très net, même personne, je pense, mais c'est sûr que ça ne va pas être des deux côtés à la fois, ça va pas être une partie de plaisir, forcément. Donc, ce que vous dites, ça rejoint bien la quatrième vérité, c'est que la vie est une souffrance.
Ça, quoi. On peut rien faire,
sauf que ça se fasse. Quand on pleure à la naissance qu'on est.
Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Tout à fait. On vient à ce monde en hurlant.
Oui, oui,
dans
fait.
Oui.
Parce qu'on a respiré.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, ce que l'on dit là, en fait, conforte la première vérité qui est celle de la souffrance. Hein. Parce que finalement, bon, c'est peut-être pas l'objet du cours d'aujourd'hui, mais également dans les classifications que le bouddhisme donne de la souffrance, on dit que les pires, et je crois que ça a été également vu au niveau de certaines expériences, au niveau du comportement des animaux, les pires, c'est celles auxquelles on ne peut pas remédier. C'est-à-dire que quand la souffrance, comment dirais-je, s'impose à nous d'une manière massive et qu'on est totalement démuni, ce que vous dites, par exemple, je me fais agresser par un certain nombre de personnes à la fois, etc. et tout, c'est tout sauf agréable. Enfin, en même temps, le sentiment de l'injustice que l'on peut ressentir ou des choses comme ça, c'est également tout sauf agréable, je pense. Et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, quoi. Donc, alors la différence, si vous voulez, quand même, c'est que le bouddhisme ne se place pas du tout dans une vue où il dit « il m'est arrivé telle tuile énorme, et c'est le hasard, et il n'y a aucune raison à cela ». C'est qu'il dit que pour que ça m'arrive, à moi et pas à quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a quelque chose en moi. Alors, c'est pas avoir d'un point de vue moral, hein, c'est pas que je sois mauvais ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose en moi qui a fait que cette chose se soit passée aussi. Il y a quelque chose dans l'extérieur, il y a quelque chose en moi, et c'est la conjonction des deux à la fois qui ont fait que ça se soit passé. Beaucoup de personnes, hein, quand ils vous disent la liste de leurs malheurs, ils vous disent que c'est entièrement dû aux autres, hein, qu'eux, ils y sont absolument pour rien. Et puis que y a un tel, il a été extrêmement mauvais, un autre il a été méchant, un autre etc. et tout. Et puis il y a toute l'humanité qui en prend pour son grade. Et la personne elle-même dit moi qui ai toutes les qualités, je comprends pas pourquoi ça m'est arrivé à moi. Mais ça tout le monde pourrait le dire, y compris les personnes qui étaient en sa liste d'affreux en quelque sorte. Donc si vous voulez, là aussi ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le bouddhisme était vu d'une manière au début sans doute stratégique. C'est-à-dire que si à l'inverse on disait « eh ben, il peut m'arriver tous les malheurs du monde et j'y suis pour rien et personne n'y est pour rien », bon, ben, dans ce cas on rentre chez soi, c'est tout. Alors que si à l'inverse on pense par une certaine action que je peux avoir, le malheur qui me touche peut être moins grand, alors peut-être est-ce illusoire comme pensée, hein. Personnellement je ne le crois pas. Il faut développer un esprit et un corps plus fort, de façon à pouvoir mieux affronter l'adversité. Et, encore plus malin, arriver à l'origine de cette adversité, et là, pouvoir commencer un petit peu à une idée qui en Occident n'existe pas tellement, mais on pourrait dire à changer le passé. Alors, je vais continuer sur cette affaire de l'extinction. Donc, on a vu le sens donc, qui signifie éteindre. Alors, dans un texte bouddhique qui s'appelle le Sutra des Quatre Vérités, il est dit que l'extinction est l'extinction des attachements, extinction parfaite et sans reste. On avait vu donc que c'était les trois attachements, c'était l'attachement au désir, l'attachement à l'existence et l'attachement à l'inexistence ou à l'anéantissement. C'est également l'apaisement consécutif à l'extinction de la souffrance, ce que les bouddhistes appellent le nirvana. Alors, je vais un petit peu expliciter ce terme, parce que c'est un terme qui est connu ici, qui a déboulé un petit peu dans notre vocabulaire. Alors, étymologiquement, nirvana, enfin nirva du moins, signifie l'extinction du souffle, c'est-à-dire l'arrêt du souffle. C'était le premier sens du terme. Les textes nous disent: les attachements ordinaires se délient, la colère se dissipe et la bêtise disparaît. Donc c'est cette description du nirvana dans lequel le sens premier était quand même l'extinction du souffle, hein, donc la mort. Et là, en fait, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui meurt en soi et qui fait qu'il y a une condition indolore et sereine qui apparaît. En fait, je pense que c'est un terme qui a été quand même un petit peu importé ici, le terme nirvana. Je ne sais pas jusqu'à quel point il a été toujours bien cerné. Je crois qu'en général, c'est quand même vu d'un point de vue assez, je ne sais pas comment dire, plus... c'est une sorte de béatitude ou quelque voilà. chose comme ça. Je ne sais pas exactement la manière dont c'est perçu. Plus ou moins, mais c'est pas une, c'est plus l'absence de trouble que qu'un état très. Si vous voulez, par exemple, on distingue dans le, enfin, ce nous entraîne peut-être un petit peu loin, mais il y a le nirvana, donc qui est la condition qui suit d'apaisement. C'est l'apaisement en fait, et y compris l'apaisement de choses qui nous omnibulaient et qu'on n'arrivait pas à discerner pour autant. Et d'un coup, tout ça se calme et il y a un état de sérénité. Alors, c'est peut-être plus de la sérénité que de la béatitude, de cette manière, il y a un état de sérénité qui apparaît. En fait, si vous voulez, ce qu'il faut bien voir, c'est que la manière, l'extinction telle qu'elle apparaît dans cette suite des quatre vérités, dont elle est le troisième terme, elle représente l'objectif à atteindre. C'est-à-dire, on le verra mieux tout à l'heure, on a vu qu'il y a un constat qui est fait, il y a de la souffrance qui existe. On se demande pourquoi, avant de chercher à y remédier. Et on dit, bon, parce qu'il y a un terrain favorable, apparitionnel qui existe, qui est l'existence d'un certain nombre d'attachements, attachement au désir, attachement à la vie, attachement à l'anéantissement. Donc là, en quelque sorte, on fait un arrêt, d'accord ? On fait un arrêt, les choses restent comme ça, et on dit, ok, ça fonctionne comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut ? Parce qu'on peut dire, ça fonctionne comme ça, et puis on ne va pas plus loin, et la souffrance se perpétue, et puis tout va très bien, enfin très bien, je passais le terme, enfin, tout continue. On dit, ben non, ce qu'on voudrait, c'est l'extinction de la souffrance. Donc, on fixe ça comme but. Vous voyez donc le raisonnement au fur et à mesure de ces termes. Et alors maintenant, donc on est dans une sorte de raisonnement, on va le voir, qui est un raisonnement de guérison. Hein. C'est un raisonnement d'ailleurs qui fixe les buts avant de donner les moyens de les atteindre. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'on soit d'accord sur ce à quoi on veut arriver. Avant de commencer à dire oui, mais si c'est comme ça, il faudrait faire ça. Non, il ne faut peut-être pas faire ça. On se calme, on marque un temps d'arrêt et on voit à quoi on veut arriver. Une fois qu'on est d'accord sur ce à quoi on veut arriver, quels sont les moyens que l'on peut mettre en œuvre ou pas ? Et là, on voit que déjà, au-delà de toute la connaissance de ces principes, de tout ce qui en ressort, enfin c'est le début de la philosophie bouddhique, mais déjà ce qu'on a, c'est une manière de procéder, c'est une manière de penser, c'est une manière de poser un problème à plat. Et qui est une démarche qui est très, on pourrait dire, très logique, et qui prend un certain nombre d'étapes et qui, comment dirais-je, qui scinde bien les problèmes en plusieurs éléments. Qu'est-ce qui dérange ? Pourquoi ça dérange ? Mais alors qu'est-ce qu'on veut dans ce cas-là ? Donc, cette extinction, c'est l'objectif qui est vu. On veut que s'éteigne la souffrance, et donc par le fait, en remédiant au terrain apparitionnel de la souffrance. Alors la quatrième vérité est la vérité de la voie, V-O-I-E, hein, le chemin, marga en sanskrit. Alors là je vais faire un petit arrêt pour parler quand même du concept de voie dans la pensée de l'Extrême-Orient, parce que c'est quelque chose, on aura l'occasion de revenir dessus, mais qui est extrêmement fondamental. Alors, la voie désigne un chemin que peut parcourir celui qui s'y engage. Alors, le terme de voie, qui s'écrit, voilà, je l'avais écrit ici, qui s'écrit comme ceci en chinois. En chinois, on dit dao, pour dire voie. Ça a été dans un premier temps transcrit en français au début, quand il y avait le système de notation du chinois de l'école française d'Extrême-Orient. On l'a écrit T-A-O, Tao. Et je pense que vous avez tous entendu peut-être parler, parce que c'est quand même le nom de l'une des trois grandes religions de la Chine, qui s'appelle en français le taoïsme, et donc qui est la doctrine ou la pensée de la voix. Mais la voix n'est pas importante que pour les taoïstes, elle est importante dans la pensée chinoise pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde a une idée de la voix, y compris les autres pensées ou les autres religions qui existent en Chine, à savoir les confucianistes et les bouddhistes. Mais la voix a également débordé la pensée, on pourrait dire, purement philosophique ou religieuse. Pour en donner quelques exemples, on le trouve vraiment dans beaucoup de mots. En japonais, donc, Tao se dit Do, hein, c'est presque pareil, et vous le trouvez dans toutes sortes d'expressions, même par exemple le Judo, qu'on dit ici Judo, donc qui est la manière de se battre d'une manière un peu souple, ou l'Aïkido, par exemple, qui est quelque chose qui est un peu similaire. Également, peut-être des choses moins liées à ça, par exemple, Shodo, la calligraphie, la voix de l'écrit, Shodo. Chado, la voix du thé. Alors donc, qu'est-ce que ça veut dire que toutes ces choses sont des voix? En quoi le thé est-il une voix? En quoi la calligraphie est-il une voix? En quoi le fait de pratiquer différentes formes de boxe chinoise ou japonaise sont-elles des voix? Parce qu'il faut bien voir qu'on dit voix pour ça, au même titre qu'on dit la voix, par exemple, pour la voix bouddhique. Alors, le terme de voix, en fait, désigne un chemin qui existe, sur lequel quelqu'un peut s'engager et peut parcourir ce chemin. Lorsque l'on ne fait que s'engager au début de la voie, on est donc quelqu'un qui est entré dans la voie. Ensuite de quoi, on est quelqu'un qui progresse dans la voie. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que le fait de se mettre à une certaine discipline change la personne elle-même, lui fait acquérir des connaissances de tout ordre, que ce soit physique, mentale, etc., qui font que la personne, au fur et à mesure, se développe, au moins se développe dans cette voie-là. Et au dernier, le stade le plus ultime de la voie, il y a plusieurs expressions qui en parlent, on parle par exemple de posséder la voie. On parle également de devenir la voie. C'est-à-dire que ce genre de choses, c'est... Il y a un processus de progrès. Quelqu'un qui est sur la voie, enfin tant qu'il ne régresse pas du moins, hein, au fur et à mesure, il peut progresser sur cette voie. Alors c'est sûr que si on prend par exemple le concept de la voie du thé, alors là je sors un peu du cadre stricto sensus du bouddhisme. En fait, c'est quelque chose pour les personnes qui pratiquent ça ou qui ont pratiqué ça, parce que peut-être que c'est quelque chose qui maintenant n'est plus est légèrement anachronique, mais qui engageait la personne en entier. C'était pas simplement, par exemple, le fait de préférer le thé au café ou à une autre boisson. C'est-à-dire que pour les personnes, d'ailleurs, la plupart des grands maîtres du thé sont souvent des gens qui sont morts de manière violente. Donc ici, c'est pas du tout l'idée que l'on a, par exemple, vis-à-vis de quelqu'un, la voie du thé, c'est pas simplement dire. Oh ben moi je préfère le thé à titre personnel et l'après-midi j'aime bien boire un petit thé, voilà. Et ça c'est peut-être très respectable, mais ça c'est une question de goût, hein. Quelqu'un d'autre dira qu'il préfère une autre boisson que le thé, hein. c'est pas un problème en soi. Mais pour les gens qui ont vraiment pratiqué la voie du thé, c'est-à-dire d'arriver à avoir un thé qui a un goût extrêmement précis, s'engage toute la personne, y compris dans la recherche des ingrédients, de la manière de le faire. Ça ne peut pas se faire dans n'importe quel lieu, donc il faut trouver un lieu qui soit le lieu pour le thé, etc. Et donc, au fur et à mesure, pour arriver à accomplir cette voie, on va de plus en plus loin. Et en fait, par exemple, au Japon, les gens qui ont été les quelques grands maîtres du thé qu'il y a eu, étaient souvent des hommes qui, par ailleurs, avaient eu une existence auparavant. C'était souvent des gens qui étaient issus de milieux de la politique ou de la guerre ou de choses comme ça. Et dès lors qu'ils arrivaient à un très haut degré dans la manière de faire le thé, souvent de par les positions anciennes qui avaient été les leurs, etc., ils devenaient les interlocuteurs de personnes qui étaient, toutes des époques qui étaient relativement bouleversées et de guerre civile, et donc ils devenaient les interlocuteurs privilégiés des puissants de ces époques. Parfois, on pourrait dire presque des conseillers indirects. Donc on voit qu'on a un niveau qui, d'une certaine manière, excède complètement le fait de préférer une boisson à une autre boisson. C'est pas l'affirmation d'un goût, enfin, à la base, c'était ça. Mais les choses sont poussées tellement loin et en se démarquant tellement des autres personnes que c'est quelque chose qui motive toute la vie. Je pense que ici, la recherche artistique est de ce niveau-là. J'avais évoqué tout à l'heure la calligraphie et également la voie du pinceau, donc pour la peinture, par exemple pour la peinture chinoise. Et c'est quelque chose au fur et à mesure qui, pour la personne qui s'y adonne, sur laquelle déjà il peut progresser et peut se rendre compte lui-même des progrès, ou l'inverse parfois malheureusement, qu'il a accompli, et peut au fur et à mesure avancer dans cette voie. Et à la fin, si c'est une vraie voie, ça permet de comprendre quelque chose d'extrêmement fondamental sur la vie. C'est-à-dire que le but n'est pas simplement d'arriver, mais ce serait déjà pas mal, hein, d'être un grand peintre ou d'être un grand calligraphe, etc. Mais ce n'est pas pour la production d'une œuvre d'art. La production d'une œuvre d'art importante, c'est juste l'effet. Mais ce qui est important, c'est le changement qu'il y a eu dans la personne. Et dès lors qu'il y a ce genre de changement qui est possible, alors la personne, elle est sur une voie. Alors, la voie bouddhique, en l'occurrence, on va voir que c'est une attention à la vigilance au travers d'un certain nombre d'actions ou de domaines de l'existence. Alors, en général, elle est répartie en 8. C'est pour ça que peut-être si vous avez vu dans certains livres sur le bouddhisme, on parle de l'octuple voie ou des 8 voies ou des 8 sentiers, c'est pas une traduction. Alors, elle est répartie en 8 qui sont la vue juste. Je vous les énumère et puis ensuite de quoi on en fera un petit peu l'analyse. La pensée juste, la parole juste, l'action juste, l'existence juste, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Et c'est dans cet ordre. Alors on va voir un petit peu la manière dont ça se répartit. Alors évidemment, l'exercice de ces 8 voies ou de cette octuple voie n'est possible qu'à celui qui est déjà dans ce processus qui est marqué ici au tableau. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte de l'existence de la souffrance, de quel est le terrain apparitionnel et qui veut arriver à l'extinction de cette souffrance. Dès lors, on lui dit, eh bien voilà, il ne vous reste qu'à développer la vue juste, la pensée juste, la parole juste, etc. C'est-à-dire qu'on est toujours dans ce processus de causalité que j'avais évoqué lors du premier cours, où la personne est responsable de ses actes d'une certaine manière, et la personne, on pourrait dire, même est constituée de ses actes. Et donc, le passé, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il m'arrive différents malheurs dans cette vie, parce qu'il y a des causes qui existent en moi, et qui font que ce malheur m'atteint, que je suis touché par ce malheur, que cela se fait. Ces causes, c'est très difficile de les changer simplement en les changeant comme ça ou par une sorte d'opération mentale ou de quelque manière que ce soit. Mais par contre, ce dont je suis responsable, c'est qu'à tout moment, je peux dire « Ok, on arrête là, et bien maintenant, je crée des causes dans tous les actes que j'effectue à partir de maintenant. » Parce qu'en fait, ces causes, on l'avait vu, c'est le phénomène du karman, donc ces causes, ce sont des actes qui ont été effectués. On avait bien vu qu'il y avait les actes physiques, les actes vocaux et les actes mentaux. À chaque instant, je crée des actes. Le seul fait de continuer à exister est une création d'actes. Si je soigne la qualité des actes que je crée à chaque instant, c'est-à-dire non plus que je suis simplement dans le terrain apparitionnel, en quelque sorte, de la souffrance, c'est-à-dire que je suis mu par différents désirs, et je ne sais pas pourquoi, mais je fais ça, voilà. Moi, je suis comme ça. Si je sors de cette espèce de chose où la personne est toujours poussée en avant, il y a une pratique bouddhique qui s'appelle, et qui a été très développée par une certaine école chinoise, qui s'appelle la pratique de l'arrêt et de l'examen, ou de l'arrêt et de la contemplation. Et donc, c'est l'idée, quand on regarde une partie des livres de cette école, ils disent, tu marches, tu es en train de marcher, tu arrêtes, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de penser, tu arrêtes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, en fait, lorsque on n'est pas simplement mu par des automatismes? C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'on vit à vie soi-même, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement les pensées qui arrivent sans cesse dans mon esprit, sur lesquelles je ne contrôle pas grand-chose, on dit, ok, il y a telle pensée qui vient de germer dans ton esprit. Maintenant, tu regardes, mais exactement comme on regarde, c'est l'expression qui est employée, quelqu'un qui est assis sur la montagne et puis qui regarde les nuages qui passent. C'est-à-dire qu'à la place que tu penses, je suis cette pensée, tu vois le nuage qui est en face, et tu penses, oh, tiens, il a quoi comme caractéristique ce nuage? Qu'est-ce que ça signifie le fait qu'il y ait des nuages comme ça? Si on applique la même chose à sa propre pensée, donc là, vous voyez, on est dans des exercices mentaux qui sont très rares. Hein. C'est-à-dire qu'à la place de penser, c'est un truc un peu étrange pour ici, même les mots, la manière de le dire en français, ça fait un peu bizarre. À la place d'être simplement la pensée que l'on pense, à un moment donné, de pouvoir, comment dire, s'extraire de cette pensée et de la juger. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui, au bout du compte, est impossible parce qu'on est dans une sorte de relativisme complet. Mais c'est un exercice mental qui fait que du coup, la pensée ne s'impose pas en tant que telle. Il y a un exercice que l'on pratiquait dans le temps dans le bouddhisme, qui est par exemple un exercice de pur, simplement au niveau de la perception, qui est de fixer une chandelle, par exemple. C'est à des époques où dans les monastères il n'y avait pas encore l'électricité. Donc la personne, il regarde une bougie, la flamme d'une bougie. Il ferme les yeux. Il y a une rémanence, c'est la rémanence rétinienne en fait, qui fait que même une fois que j'ai les yeux fermés, pendant quelques temps, j'ai encore l'image tout à fait différente de la chandelle réelle, mais il y a encore l'image de la flamme. On dit, maintenant, on va un degré plus loin. Cet œil intérieur avec lequel tu voyais la flamme, tu le fermes aussi. Et il y a encore une flamme qui reste. Et on fait ça un certain nombre de fois. C'est vraiment les capacités du mental, et c'est le fait, c'est quelque chose que l'on connaît pas bien, mais c'est le fait que l'on peut, avoir une gymnastique du mental. Comme à un moment donné, on pense que ça me ferait du bien de faire tel ou tel exercice de gymnastique physique, il faut que je me tienne plus droit, que je ceci, que je cela, et donc pour cela, je pratique tel ou tel exercice de gymnastique corporelle. Il y a également des exercices de gymnastique mentale que l'on peut pratiquer. Le but n'est pas d'arriver à une sorte de puissance du mental. Là, on va voir qu'au contraire, dans cette notion des huit voies, le but est d'arriver à vivre d'une manière plus juste. Donc, il y a la vue juste, la pensée juste, la parole, l'action, l'existence, l'effort, l'attention, la concentration juste. Vis-à-vis de cet adjectif que je traduis ici par juste, dans beaucoup d'autres textes, je crois qu'on traduit également par correct. Ce qui m'intéressait dans juste, c'est qu'il y a à la fois la notion de justesse et de justice. C'est-à-dire à la fois de ce qui est juste. La justesse, comme on dit par exemple qu'une note de musique peut être juste et qu'une autre est fausse, enfin, dans un morceau donné, et également ce qui est juste, c'est-à-dire ce qui est correct, c'est-à-dire ce qui répond à une impulsion éthique. Donc, la vue juste, par exemple, c'est au fur et à mesure développer une vue lucide. On a vu tout à l'heure les passions, les différentes choses qui permettaient le terrain apparitionnel de la souffrance. Donc vis-à-vis de ça, essayez, en apprenant par exemple les principes du bouddhisme, de développer au fur et à mesure une vue lucide des choses. Je ne pense pas qu'on n'arrive pas en fait à une vue lucide, un point c'est tout. Mais au fur et à mesure, on peut gagner en lucidité. C'est pour ça que ce sont des voies. C'est-à-dire que dans une voie, ce qui est important, c'est pas tellement le but, le fait d'arriver à la destination de la voie. C'est le fait de marcher sur la bonne voie, c'est-à-dire d'être dans la bonne direction. Et puis ce qu'on voit en cours de route, c'est extrêmement intéressant. Donc le but, c'est davantage de cheminer sur la voie qu'à tout prix de vouloir arriver au terme de la voie. Donc la première, la vue juste, ça permet de, il s'agit de développer une vue lucide des choses. C'est-à-dire pas simplement être omnibulé par ce que l'on veut, ce que l'on veut pas, pas de réagir aux choses, mais de développer de la lucidité. Et au fur et à mesure, de percevoir les événements avec davantage de justesse. Vous savez, beaucoup d'événements, de choses comme ça, on réagit dans un premier temps par du « j'aime ou j'aime pas », simplement. « je veux pas ». C'est-à-dire qu'il y a un sentiment ou d'attraction ou de répulsion. Mais même avec ça, il y a quelque chose qui est intéressant à faire. C'est-à-dire pourquoi ça provoque d'attraction en moi, pourquoi ça provoque de la répulsion. La pensée juste, hein, c'est-à-dire c'est la pensée qui précède l'action. Alors évidemment, je pense qu'on parle ici d'action importante, enfin au moins pour l'individu. C'est-à-dire, est-ce que j'ai les éléments nécessaires pour avoir une décision cohérente? Il va falloir faire quelque chose. Et si je n'ai pas les éléments nécessaires pour prendre une décision cohérente, au moins en rassembler un minimum, mais ne pas y aller avec rien de rationnel. La parole juste, importance de la parole parmi les divers actes qui sont produits. Une fois que la pensée est émise, souvent ce sont des paroles en premier qui émanent de nous. Mais souvent avant de faire quelque chose, j'ai besoin souvent de m'exprimer à ce niveau-là. Ou bien auprès de ceux avec qui je vais faire, ou bien pour manifester mon intention. C'est un acte vocal qui doit donc exclure le mensonge, la médisance, la duplicité et les propos oiseux. Et là aussi, c'est quelque chose que l'on doit exercer avec bienveillance et si possible, avec justice. L'action juste. Donc vous voyez qu'on est dans un processus au fur et à mesure d'accomplissement. L'action juste. Une fois la pensée juste émise, notre corps peut exprimer des attitudes justes qui excluent des actes de violence, tels que le meurtre, le vol, et qui doivent exprimer le respect de la vie. L'existence juste, cette notion recouvre à la fois l'occupation professionnelle et la façon dont nous participons à la société, mais aussi la discipline quotidienne relative aux choses toutes courantes, telles que le sommeil, la nourriture, le mouvement. Elle permet aux croyants du bouddhisme de mener une existence saine et cohérente. L'effort juste, c'est le fait de développer du courage et de la vigueur. L'attention juste, ça porte à accorder aux différentes choses une vigilance assidue. Cette vigilance elle-même se fonde sur les concepts bouddhiques. Alors la notion d'attention, ou dans d'autres traductions on trouve aussi le mot vigilance, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans le bouddhisme. Parce qu'on l'a vu quand on parlait du personnage du Bouddha, le Bouddha est dit être une sorte d'éveillé. Enfin, le mot Bouddha signifie éveillé. C'est-à-dire que il est éveillé à la nature des choses, mais en fait ce qu'il voit est la même chose que ce que tout le monde voit. C'est-à-dire qu'il est dans le même monde que les autres hommes. Et donc, simplement, vis-à-vis de ce monde, il peut porter un regard qui est davantage vigilant, qui est davantage attentif aux choses. Dans les premiers enseignements du bouddhisme, il y a une sorte de proverbe d'ailleurs, qui est assez terrible, qui dit « Un homme vigilant ne meurt jamais, un homme qui n'est pas vigilant est déjà mort même s'il est en vie ». C'est la pensée bouddhique dans toute sa sévérité quelque part. Mais aussi, je crois que ce sont des choses qui sont un petit peu salutaires. C'est-à-dire qu'on peut porter un regard sur les choses, distrait et peu intéressé. Et du coup, les choses ne nous disent rien, les choses ne nous apprennent rien. Et à l'inverse, cette vigilance est vraiment quelque chose que l'on peut beaucoup développer, hein. Il suffit de le vouloir et on arrive à énormément le développer. Mais dès lors qu'on commence à scruter les choses disent beaucoup de choses et les choses sont extrêmement enrichissantes. Et dès qu'on commence à exercer vraiment et d'une manière assez volontaire la vigilance, c'est quelque chose qui, dans quoi, au fur et à mesure, on peut faire des progrès tout à fait... c'est spectaculaire. Hein. C'est vraiment spectaculaire. On peut faire des progrès très importants. Et la dernière étape, c'est la concentration juste, c'est-à-dire cette espèce de manière dont l'esprit peut être rassemblé. Du coup, les choses de la vie quotidienne peuvent être abordées avec justesse et sagesse. Alors, en fait, on voit bien que, bien qu'on parle de 8 voies, c'est une voie unique. C'est-à-dire que tout cela procède d'une même volonté. Et cette volonté, c'est en premier une réflexion sur ce que l'on fait ou ce que l'on va faire. C'est-à-dire qu'on est toujours une sorte de présent immédiat et de présent et de futur immédiat, on peut dire. Et à partir de là, de développer une existence plus significative. Au fur et à mesure, en développant dans la vue que l'on a, dans la pensée, dans la parole, on voit bien la graduation, la vue, quelque part on est spectateur. Ça reste encore quelque chose qui est relativement passif. Ensuite, à partir de cette perception qu'on a, il y a la pensée. C'est-à-dire donc ça doit entraîner un certain nombre de raisonnements. Et puis, on va vers l'extérieur. C'est-à-dire que ça s'exprime par des paroles, puis par des actes. Et ensuite de quoi, on va davantage vers ce que l'on pourrait appeler des qualités, l'exercice de qualité mentale ou morale. C'est-à-dire qu'ensuite de quoi, il y a l'effort, l'attention ou la vigilance, et ensuite de quoi le fait de pouvoir rassembler l'esprit, c'est-à-dire la concentration. Donc ça, ce système des quatre vérités, était le premier enseignement du Bouddha. Ce n'est pas, comme je vous dis, ce n'est pas l'enseignement le plus profond pour autant, mais c'est un enseignement qui est tout à fait intéressant et qui est à la limite, on pourrait dire, du bouddhisme et du non-bouddhisme. Alors, j'ai fait le petit tableau suivant pour le récapituler, pour voir un peu, après avoir vu chacun de ces quatre termes d'une manière différente. Alors là, évidemment, ça ne va peut-être pas être très lisible, parce qu'il y a beaucoup de choses sur le tableau, mais je l'ai écrit, je vais lire ce que j'ai écrit. Donc la première, la vérité de la souffrance. En fait, ça dépeint une condition humaine, que j'ai appelée réelle. Et à chaque fois, si vous voulez, là, il va y avoir le nom sur cette première ligne de ces quatre vérités. Sur la deuxième ligne, il va y avoir une sorte d'explication pour dire ce que c'est. Et sur la troisième ligne, il va y avoir une comparaison avec le traitement curatif, le traitement thérapeutique. Parce que dans cette affaire des quatre vérités, le Bouddha se situe comme une sorte d'habile médecin. Et donc, la vérité de la souffrance correspond à la condition humaine et correspond à ce qui est identifié par cet habile médecin comme un état pathologique. Si le patient se plaint de quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La deuxième, la vérité de l'apparition, ce sont les causes de la souffrance. Et dans le cas de la comparaison avec le médecin, ça correspond aux causes de la maladie. C'est-à-dire qu'il constate un état pathologique et il peut voir quelles sont les causes de la maladie. Dès lors qu'il voit les causes de la maladie, ça veut dire que déjà il a identifié, c'est-à-dire qu'il y a un diagnostic qui existe. Il a dit, la personne souffre de ça, et c'est telle maladie, et ça se manifeste par les symptômes que je vois.
Et justement, on ne connaît souvent pas les causes de la maladie.
Oui.
On n'arrive pas à les trouver.
Oui, mais là on parle d'un habile médecin. On n'est pas toujours un bon médecin pour soi-même. Mais enfin bon, c'est possible aussi. Mais là, en fait, donc, il y a une pathologie. Dès le moment où il y a une pathologie qui est identifiée par un diagnostic, théoriquement, les causes sont connues. Ensuite de quoi, la vérité de l'extinction correspond, vis-à-vis de ce qui était dit ici, conditions humaines, etc., c'est un état parfait qui succéderait à l'éveil. Et là, en fait, c'est l'objectif que se donne le médecin, c'est-à-dire la santé, c'est-à-dire le rétablissement du malade. Et la dernière, donc la vérité de la voie ou de l'octuple voie des 8 voies, c'est le moyen pour y parvenir, c'est-à-dire le traitement médical, la thérapie par elle-même. Donc ce cycle des quatre vérités fonctionne de cette manière, c'est-à-dire identification, en premier constat de l'état pathologique, identification du mal, c'est-à-dire le diagnostic, l'objectif à déterminer. Alors c'est vrai que cette troisième phase de l'objectif à déterminer, pour beaucoup de gens, ça semble effectivement évident. C'est-à-dire que la personne qui va voir le médecin, normalement, c'est pour demander de guérir. Mais enfin, donc l'objectif et éventuellement les... Comment dirais-je on pourrait presque dire, parfois, il peut y avoir des objectifs transitoires. C'est-à-dire que la personne, peut-être que ne peut pas recouvrer la santé de suite et doit passer par une première phase qui doit amener tel résultat, une deuxième, etc. Et la troisième, c'est le fait de mettre au point directement la thérapie.
Et ça, c'est une souffrance parmi c'est la souffrance physique. Il y a toutes sortes de souffrances. Dans la Bien guerre, sûr. On était occupé par les Allemands.
Oui,
on souffrait,
oui, oui,
bon,
oui.
Il fallait attendre la fin de la guerre. Hein.
Comment
Il fallait attendre la fin de la guerre.
Oui. Oui, oui.
Alors là, on ne pouvait pas faire grand-chose. On avait des tickets de rationnement. On faisait la queue pour le pain, le lait. Bon, ben,
oui.
On souffrait.
Oui, bien sûr.
Bon, ben, il fallait attendre la fin de la guerre.
Enfin bon, il y en a d'autres qui ont pris les armes aussi. Hein, certains ont pris les armes aussi. Puis depuis, bon, c'est ce qui est important, c'est la notion. On l'a vu au niveau du comportement, c'est la notion qu'on a vu au niveau de la voix de la justesse ou de la justice. Hein, alors effectivement, qui peut être très différente d'une personne à l'autre. Hein, c'est-à-dire que je me trouve envahi par un envahisseur. Qu'est-ce qui est juste de faire? Est-ce qu'il faut résister? Est-ce qu'il faut collaborer? Est-ce qu'il faut... je ne sais pas, hein, je veux dire, là, c'est chacun qui juge. Mais dans quoi je me réaliserai? Ou est-ce qu'il faut dire, bon, tout ça, ça ne me concerne pas, on est envahi par les envahisseurs, ils nous ennuient, tous ces gens-là, etc., ils font du bruit. Quelle est l'attitude que je dois avoir une fois que je suis, que mon peuple ou que mon pays est envahi? Et là, il y a une question de justesse et de justice. Il n'y a pas de recette miracle, hein. Je dis pas que je dois la donner ou que quiconque peut la donner pour tout le monde, mais je ne peux pas simplement considérer que le fait d'être envahi est quelque chose qui est anodin. Et donc, dès lors que ça me touche, ça appelle une réaction de ma part, ou alors le fait que je dis, ben non, moi je me désintéresse de ces choses-là, etc. Chacun peut y avoir différentes réactions. Mais l'exercice de ce que j'ai appelé la justesse fait que dans un cas précis, il y a toujours quelque chose à faire. Ou alors décider que je ne ferai rien. C'est également une manière de faire quelque chose. Hein. Mais juste le fait de subir, c'est voir sa liberté réduite au fur et à mesure au point le plus bas. Et c'est toujours quelque chose de simplement être celui qui subit. C'est quelque chose de douloureux en soi. Bon, si on peut rien faire d'autre, peut-être qu'il faut subir, je ne sais pas. Hein. Ça dépend des cas. Hein.
Quand on a 10 ans, on ne peut rien faire. Déjà.
Oui.
On ne peut pas être résistant. Hein.
Non. Enfin, je suppose que non, ou je ne sais pas. Mais je ne dis pas qu'il faut. Il faut faire ceci ou il faut faire cela ou quoi que ce soit. Mais il y a une action à mener en toute chose. Et parfois, il faut aussi faire preuve de patience, bien sûr. Ça. Alors, quelques mots pour terminer, et puis ensuite de quoi on en discutera ensemble, parce que là, on a commencé quand même, avec les deux dernières séances, à voir vraiment les principes de la philosophie bouddhique. On voit quand même que le bouddhisme, vis-à-vis des autres religions de son époque et également vis-à-vis, on pourrait dire, des autres religions mondiales, même si le bouddhisme n'en avait pas connaissance en son temps, se présente quand même d'une manière qui est spéciale, on pourrait dire. Du moins qui lui est propre, qui est particulière. Parce que vraiment, la plupart des recueils de textes bouddhiques commencent à peu près par ce texte que je vous avais lu tout à l'heure. Et donc, si vous comparez avec ce qui existe dans beaucoup d'autres pensées ou dans beaucoup d'autres religions de la même époque ou antérieures ou légèrement ou qui sont venues après, en général, les premiers mots de ces religions sont quelque chose pour expliquer le monde ou pour expliquer ce qu'on pourrait appeler une sorte de divinité ou quelle est l'origine des phénomènes ou l'origine du monde. Le bouddhisme, les premiers mots, c'est que la naissance est souffrance. C'est comme ça que ça commence, le bouddhisme. Dans d'autres, la plupart des autres pensées des autres religions ou de ces époques très lointaines de l'humanité commencent par le fait de donner une explication au monde ou par le fait de donner une personnalité à une divinité. Et donc, de parler de choses que les gens ne savent pas, enfin du moins n'ont pas vues. Quelqu'un qui me dit, ben voilà, le monde, ça a commencé comme ça, etc. Moi, je ne sais pas, je n'étais pas au début, donc où on le croit ou on ne le croit pas. Alors que là, les premiers mots du bouddhisme, ils disent que la naissance est souffrance. Là aussi, c'est l'origine. Hein. C'est comme ça, enfin du moins pour chacune de ces existences, c'est comme ça que ça a commencé. On voit bien que c'est pour ça d'ailleurs que même par exemple je pense à d'autres mouvements comme pas seulement les religions occidentales mais même par exemple le début du taoïsme, je ne sais plus comment c'est traduit en français, le 1 a donné le 2, le 2 a donné le 3 et le 3 a donné les 10 000 choses, enfin comme ça hein, cité de mémoire et en traduction directe. Mais là, on voit bien qu'on est dans une démarche qui vise à expliquer le monde quelque part, ou expliquer l'idée que l'on peut avoir du monde. Or que le bouddhisme, d'entrée, donc, se présente quand même sur un terrain qui est tout à fait autre. C'est-à-dire que les premiers mots, il dit la naissance a été souffrance. La vieillesse est souffrance, la maladie est souffrance, etc. Et donc on voit qu'on est dans un registre qui est extrêmement différent. Le bouddhisme ne propose finalement pas tellement d'explications de l'origine du monde, de choses comme ça, etc. Il propose un moyen, dans ces quatre vérités, de lutter contre la souffrance, et dans d'autres concepts, un moyen de connaissance et d'action. Donc, si vous voulez, je voudrais terminer ici, puis on a un petit peu de temps pour débattre ensemble pour aujourd'hui. La fois prochaine, donc, c'est exactement dans 2 semaines, le 30 mars, donc même heure, même endroit. Et là, on abordera une autre notion bouddhique qui s'appelle la production conditionnée. La production conditionnée. Alors, vous allez voir que c'est également une drôle d'affaire. Hein. Alors, bon, maintenant, moi qui ai beaucoup parlé, je vous laisse la parole. Pardon ? Oui. Oui. Alors, j'ai un petit peu de mal à répondre, parce qu'en fait, on peut répondre de différentes manières. C'est pas une religion... je peux pas dire. Il existe un clergé, par exemple. Moi, je me rappelle, quand j'étais au Japon, quand j'étais en Chine, il existe un clergé, il existe des temples partout, etc. Donc, dire que c'est juste une pensée d'ordre... Il existe des pratiques... certaines qui sont extrêmement complexes parfois. Donc dire que c'est juste une pensée philosophique, je pense que ce n'est pas vrai. C'est non seulement une pensée philosophique, mais c'est également un certain nombre de rituels, de pratiques religieuses, et il y a quand même tout un système d'enseignement qui fait qu'on peut quand même assimiler ça à une religion, même si ce n'est pas une religion au même titre que les religions occidentales. Par exemple, en Asie, beaucoup de gens sont bouddhistes et sont autre chose en même temps. Donc, c'est pas une religion exclusive, par exemple. Je pense pas que ce soit une religion, c'est pas non plus quelque chose qui s'occupe des dieux. Je pense qu'on est dans une sorte de processus, si vous voulez, où on est passé de... d'un processus polythéiste, donc qui était vraiment les religions très anciennes avec une multitude de dieux, avec ensuite un processus monothéiste, qui sont des religions comme le christianisme, le judaïsme, etc. Et ensuite de quoi, avec des religions un peu comme le bouddhisme, on arrive à une religion non-théiste. Alors, est-ce que quelque chose qui est non-théiste peut être religieux, etc. Bon, là c'est, il n'y a pas de réponse, si vous voulez. Si c'est une religion, je dirais que c'est une religion originale. C'est peut-être pas une bonne réponse, mais...
Parce qu'à certains moments, vous comparez le bouddhisme avec des religions.
Oui.
Ça,
donc, moi, je pense que...
C'est pas une religion,
Moi, je pense... C'est une religion qui est différente des autres, mais vu de l'extérieur, on pourrait dire que c'est également une religion. Je veux dire, quand on regarde les cartes du monde où il y a une, où par religion il y a le nombre de, je sais pas quoi, de fidèles, ben le bouddhisme figure dans ce genre de cartes.
Hein. Oui. C'est une religion parce qu'on croit en quelque chose. Dans toutes les religions, on croit en quelque chose. Oui. C'est le fait de croire.
Oui, mais même les athées croient dans quelque chose. Je veux dire. Oui, mais ça peut être aussi les relier au divin.
Mais c'est oui. Pas spécialement moraliste, quoi. On ne dit pas que tu ne tueras pas.
Alors, attention, c'est pas moraliste, mais pourtant, pour le bouddhiste, le plus important est de développer une forme de morale, c'est-à-dire d'éthique, mais qu'il n'aurait pas imposé de l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de contradictions, et j'ai un petit peu du mal à répondre d'une manière affirmative en disant, eh ben oui, c'est une religion, ou bien non, c'en est pas du tout une. Et parce qu'il y a des traits religieux et en même temps il y a des choses qui ici ne font pas partie du domaine religieux du tout.
Ah oui.
Donc c'est pour ça que je crois qu'il faut accepter l'originalité.
Ah oui, tout à fait.
Il existe bien une religion de quand vous avez une idée, vécu,
oui.
Pensée.
Oui, le brahmanisme.
Le brahmanisme.
Oui.
Donc il n'allait pas lutter, remettre en cause le brahmanisme, il a apporté quelque chose en plus.
Oui.
Par rapport au, donc il laissait les gens libres d'aller à l'église, d'accepter les rituels existants, et il leur a apporté un enseignement sur un mode de comportement pour justement effacer les souffrances qu'il constatait, puisque au départ il a fait un constat sur ce qui relevait autour de lui. Et, donc cette souffrance, à la fois physique, psychologique, psychique, et il a essayé d'apporter sa pierre pour soulager la misère du monde.
Oui.
Et ce n'était pas ni antagoniste, ni contradictoire, ni opposé à la religion. Donc ça permettait aux gens d'être bien dans leur tête, finalement.
Oui.
Ils n'avaient pas à faire un choix, ça venait en fait s'ajouter, ou en tous les cas leur apporter une solution par rapport à ce que finalement la religion ne leur a manqué peut-être pas.
Oui, oui. Par contre, du point de vue quand même des brahmanismes, il a été jugé comme une sorte d'hétérodoxe en quelque sorte. Parce que eux, ils ont quand même vu qu'un certain nombre de choses que le brahmanisme, que la pensée du brahmanisme, la pensée ancienne, avait mis en place, que finalement, si on suivait l'enseignement du Bouddha, il y avait des conflits qui étaient trop importants, notamment au niveau de l'organisation de la société. Parce que le Bouddha, le brahmanisme prêche donc le système des castes, et le Bouddha, pour lui, ça lui semble une ineptie. Donc là, quand même, quand on touche à l'organisation même de la société ou à des choses comme ça, là, on voit bien que il y a quelque chose qui se passe qui est... c'est vrai que nous, la perception aujourd'hui que l'on en a en France est différente, parce que donc on n'est pas dans un système du moins de castes établi avec autant, il y a des castes également, hein, mais elles ne sont pas établies de manière aussi patente que dans les sociétés antiques. Mais même par exemple, le fait qu'il ait créé un ordre religieux en dehors de tout, donc les gens, alors que vraiment, et demandant aux gens de sortir de leur famille. Dans la pensée indienne, c'était quand même quelque chose de très lourd, parce que l'homme est fait pour être un maître de famille. Avoir des enfants, une lignée, c'est extrêmement important et tout. Donc lui demandait à ses disciples de le suivre et de sortir de la famille. Le fait qu'il ait accepté comme disciple et qu'il ait créé un ordre religieux pour elle, des femmes. Du point de vue brahmaniste, là c'est la fin du monde, là, où va le pays, quoi. Et donc tout ça quand même fait qu'à son époque... Je pense que pour beaucoup, d'ailleurs certains ont tenté de l'unir même de manière expéditive, mais pour beaucoup, il a dû quand même sembler au moins passer pour un réformateur du brahmanisme, et pour certains pour un réformateur trop avancé. Mais
est-ce qu'il jugeait les autres religions? Est-ce qu'il a jugé? Est-ce qu'on sait ce qu'on disait, par exemple?
Non. Non, enfin, non, a priori, il ne s'y intéresse pas énormément.
Il s'y intéresse oui. pas.
Oui, il a un problème de. Etc. C'est-à-dire que c'est un peu l'anecdote dont je vous ai parlé, je crois que c'était dans les cours précédents, avec le. Lui, il se compare effectivement à quelqu'un qui doit soigner. C'était l'anecdote avec l'homme qui a pris une flèche, qui a été blessé par une flèche. Et les autres, eux, ils ont besoin de savoir d'où vient la flèche, qu'est-ce que. Etc. Et tout. Dis-moi, il faut que j'apporte. J'ai un homme à soigner
voilà,
là.
C'est ça.
Donc, mais en même temps, on peut dire, quand il dit ça, quelque part, il y a quand même une critique assez forte. Hein,
oui,
parce que le. Oui, oui. Et sur la plupart, quand même, il y avait beaucoup de textes, par exemple, le. Ça, je ne m'en rappelle plus parce que ça monte un peu à loin, mais il y a. Amené, il a dit qu'il y avait 14 impossibilités pour un Bouddha. Et ces 14 impossibilités, c'est justement de donner une explication du monde, de savoir si l'âme existe vraiment, ou des choses comme ça. Et donc, en disant ça, quelque part, c'est quand même un pavé énorme dans la mare des autres, parce qu'ils disent, si un Bouddha, même un éveillé au plus haut niveau, ne peut pas savoir ces choses-là, et quelque part, il dit, il s'y intéresse qu'à moitié, quoi. Et alors, ceux qui en parlent, ils parlent de quoi, ils connaissent quoi. Donc, même s'il n'a pas été d'une critique... comment dirais-je, virulente et précise, il y a quand même dans son enseignement des choses qui étaient extrêmement déstabilisantes, je pense, pour les autorités religieuses de son époque.
J'ai vu dans un journal qu'il y avait un petit Bouddha là, qui vivait dans un tronc d'arbre sans manger. Qu'est-ce que vous en pensez, ça ?
Dans les troncs d'arbre, je ne sais pas. Enfin, moi, dans les troncs d'arbre, j'ai...
Il paraît qu'il
ne mange
pas, il rien.
Vous n'avez
pas lu ça
pendant
plusieurs jours.
Non. Oui, ben je ne sais pas. Enfin bon, le. Comment dirais-je. Oui, mais bon, je dirais, la vie est riche de fakirs et de je sais pas quoi. Hein. Moi, je me rappelle quand j'étais en Chine, il y avait un truc un peu pareil. Hein. Il y avait un vieux bonf qui s'était échappé. Moi, j'étais près de Hong Kong, qui s'était échappé de la Chine communiste. Hein. Et qui restait sans respirer, sans rien, et on l'avait mis sous cloche, réel, hein, je l'ai vu dans un temple. Hein. Et donc, en fait, c'était un homme extrêmement, extrêmement âgé, et d'ailleurs même pour s'échapper, il avait fait un truc incroyable. Hein, et donc, il ne faisait plus rien. Enfin, quand je dis plus rien, c'est-à-dire qu'il ne respirait pratiquement plus, bon, il ne s'alimentait plus depuis longtemps et tout, etc. Et donc, les gens défilaient, comme on va au musée. Hein, et pareil que quand on passait, que le gars il bougeait légèrement, bon, moi quand je suis allé, vraiment il bougeait pas plus du tout, et je me suis demandé, mais s'il était encore vivant. Hein. Et quand il bougeait légèrement, il paraît que c'était un signe de chance. Mais tout ça, bon, c'est le domaine de la superstition et parfois un peu de la blague. Hein.
Est-ce qu'il s'est alimenté ?
Et c'est drôle que ça n'arrive pas en Chine.
Ah non, mais je crois que toute l'Asie, hein, c'est pas seulement la Chine, mais toute l'Asie était extrêmement productrice de fakirs et de je sais pas quoi, là, de miracles en tout genre. Hein. Mais en France aussi, il y avait une personne comme ça. Hein. Enfin bon, c'est pas l'objet. Oui, tout à fait. Hein. Je ne sais plus, même. Oui, voilà, tout à fait. Oui. Oui. Mais, si vous voulez, mais du point de vue du bouddhisme, enfin, le but n'est absolument pas du tout de décider de ne plus s'alimenter, par exemple, ou de ne plus respirer. C'est sûr que ça frappe l'imagination ou n'importe quoi, mais c'est du domaine un peu de l'enfantillage quand même. Enfin, quand je dis ça, je dis pas du tout du mal de Madame Marthe Robin ou de qui que ce soit, si vous voulez. Mais le but, on l'a vu, c'est l'action juste. Il y a quand même quelque chose à faire, la vue juste, la pensée juste. C'est pas parce que demain je mangerai 4 fois moins que maintenant que j'aurai forcément une action qui soit plus juste.
Moi, je trouve que ce sont des principes de bon sens et que même sans être bouddhiste, on peut appliquer tout ça. Et il est évident qu'on aura une vie plus agréable.
Oui.
Si on se comporte, c'est évident, si on se comporte bien, on a moins de soucis, moins de tracas, on a un esprit plus libre, plus heureux. Et donc, ce sont vraiment, même sans être bouddhiste, ce sont des principes qu'on peut appliquer tous les jours et qui nous aident à aller mieux.
Oui. Mais moi, je pense que quand on les applique, on est déjà relativement bouddhiste. Quand on les applique, quand on applique ces principes-là, on est déjà relativement bouddhiste.
Moi, je voudrais savoir, oui. Est-ce le zen qui est bouddhiste ou le bouddhisme qui est zen ?
Non, le zen, le zen japonais, hein, donc qui est l'équivalent du chan chinois, est une des branches du bouddhisme.
D'accord.
Et donc, c'est l'une des branches parmi d'autres. C'est un courant relativement important, mais c'est une branche parmi d'autres. D'ailleurs, c'était éventuellement quelque chose sur quoi je compterais terminer. C'est-à-dire vous dire un peu dans les différentes branches bouddhiques qui existent, voire qui sont représentées en Occident, qui est quoi? Parce que, je veux dire, vous comprenez, il y a une sorte de... Vu que ces gens déboulent les uns après les autres, en faisant toujours un petit peu comme si tous les autres n'existaient pas, c'est assez... c'est un petit peu facile. Je me rappelle, enfin justement, puisqu'on est au niveau des anecdotes, quand je vivais au Japon, il y avait un grand temple, une grande église à côté de chez moi, d'un truc chrétien, mais que je ne connaissais même pas. Ici, personne n'avait entendu parler. C'était un truc évangélique, je ne sais pas quoi. Enfin, vraiment quelque chose de complètement inconnu. Mais vraiment, dans le quartier de Tokyo où j'étais, les gens étaient convaincus que le christianisme, c'était ça. Et des choses comme, par exemple, l'église catholique n'était absolument pas représentée. Bon, depuis les voyages du pape ou des choses comme ça, et donc le christianisme a commencé à être mieux connu là-bas, enfin, le catholicisme, du moins. Mais donc, ici, vis-à-vis des différents mouvements bouddhistes, on a un peu justement cette impression de ce qui arrive dans le désordre et un petit peu... donc, c'est éventuellement pour le... la dernière session, quelque chose que j'aurais pensé à faire, c'est-à-dire vous dire un peu qui est quoi et comment dans ces différents mouvements qui sont présentés en France et ceux qui ne sont absolument pas du tout représentés ou qui ne sont représentés que chez les Asiatiques. Mais donc le Zen est l'une des branches du bouddhisme.
Oui. Le brahmanisme n'imposait pas de règles de vie, de toute façon,
Ah si, si, non, non, si, si, il y avait des règles de vie très strictes au niveau de l'alimentation, au niveau des... mais qui étaient suivies par les brahmanes. C'est-à-dire que les brahmanes, eux, ils devaient connaître un très grand nombre de formules, enfin non seulement de formules, mais même des livres entiers, hein, par cœur, ils devaient les réciter. Il y avait au début du brahmanisme, enfin bon, moi je suis pas spécialiste du brahmanisme, hein, mais il y avait toutes sortes de rites et de sacrifices vis-à-vis du feu, vis-à-vis de différentes choses, etc. Donc c'est pas simplement... une religion mentale. C'est également mental, mais c'est également un certain nombre de...
Oui. De la part des prêtres, mais pas de la population.
Alors chacun à son niveau. C'était pas la même chose pour tout le monde. Parce que c'était une société extrêmement compartimentée. Les prêtres étaient une sorte de religieux professionnels, on pourrait dire. Et donc ils devaient être experts dans leur domaine. Et, mais par exemple, il y avait pour, on l'a vu dans le premier cours, c'était la notion du dharma, c'est-à-dire de la loi qu'il faut suivre, et donc il y avait un dharma pour chacune des castes et même pour chacun des sous-groupes de la société.
Et le karma, il existe dans le bouddhisme ?
Oui, tout à fait, donc c'est ce qu'on a vu au premier cours, donc le mot karma, donc karman en sanskrit, signifie l'acte, les actes. Et donc, c'est l'idée que nous sommes l'accumulation de nos actes. Et ce qui fait d'ailleurs que la vue générale qu'on a ici du comment ?
On est responsable de ce qui nous arrive.
Oui. Et ce qui fait que comme ici, la notion qu'on a du karma, parce que le mot est passé dans le vocabulaire ici, où il y a quand même un peu l'idée de la destinée, je dirais plus ou moins, ou soit une destinée même contraire, fâcheuse, me semble, là par contre, c'est pas très juste. Je pense que si on traduit le mot karman par acte ou par action, on est quand même davantage dans quelque chose de juste. Oui.
On pourrait dire peut-être que l'enseignement des quatre vérités, c'est l'enseignement de la psychosomatique 2500 ans avant Freud.
Oui.
Par conséquent, par rapport à la question de tout à l'heure, qui est de savoir si le bouddhisme est une philosophie ou une religion, on pourrait dire que c'est une science, que c'est la science, parce qu'il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont. Parce que c'est vrai, comme vous disiez, c'est une question de bon sens. Quand j'étais enfant, j'habitais dans un village, un tout petit village en Bretagne, et à la campagne, et ma grand-mère, je me rappelle très bien l'entendre dire qu'il fallait tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Ce qui est une sorte d'assaise, ce qui est dans la direction de la voix. Mais le mot juste, justement, comme il a été expliqué, c'est ça toute la difficulté. Voir les choses est le premier, avoir une vue juste, mais j'imagine que l'éveillé, c'est le seul qui est capable de voir les choses telles qu'elles sont. Et nous, nous les voyons toujours de façon déformée.
Oui. Alors, la seule chose, le lien qui était dit entre la psychanalyse et le bouddhisme est un lien qui n'est pas évident à dire, parce qu'il y a eu beaucoup d'interprétations, on pourrait dire, psychanalytiques. Moi, je connais très mal la psychanalyse, donc j'en parlerai pas de manière experte, loin de là. D'interprétations psychanalytiques, on pourrait dire, du bouddhisme. comment dirais-je, au moins, dans ce qu'on a vu aujourd'hui sur les quatre vérités, il y a déjà une différence, il y a des points communs, et il y a une différence importante qui apparaît, c'est que le bouddhisme ne trouve pas une sorte de désir fondamental, de libido, par exemple, comme dans la psychanalyse. Il n'y a pas un désir fondamental. Il y a des désirs qui s'expriment sous différentes formes, qui se relaient mutuellement, mais il n'y a pas une sorte de désir fondamental. Je crois que c'est quand même une des différences. Bon, enfin, moi, je n'en parlerai pas de manière très experte, parce que ce n'est pas des domaines que je connais bien. Ce que je crois aussi, c'est que c'est vrai que peut-être pas la psychanalyse, mais au moins la pensée de Freud a été une des premières, peut-être en Occident depuis longtemps, à vraiment réfléchir sur le phénomène du mental et des pulsions qui agitent le mental et la vie individuelle. Le bouddhisme a fait à peu près le même chemin, mais la vue que nous avons maintenant du bouddhisme, on peut dire, a été extrêmement marquée, non seulement par le message du Bouddha, mais par toute la succession de penseurs qu'il y a eu dans le bouddhisme. Je pense qu'il y a eu notamment un point qui a été extrêmement important, c'est le développement des grandes écoles chinoises, qui s'est passé à peu près 10 siècles après la mort du Bouddha. Ça fait que entre la mort du Bouddha et là où vraiment le bouddhisme tel que nous le connaissons un peu aujourd'hui commence à prendre place, il y a eu énormément une réflexion critique, il y a eu énormément de penseurs, il y a eu de très très grands philosophes, je veux dire, c'est énorme, qui sont apparus, et finalement il a fallu à peu près 10 siècles pour que la pensée bouddhique prenne toute sa forme, prenne son ampleur, et après il y a eu encore d'autres prolongements. Or je crois que dans le cas de notamment de la psychanalyse, je crois qu'il faut qu'eux aussi prennent 10 siècles. Pour cette pensée qui est née au début du XXe siècle, il faut qu'eux aussi, ils aient des penseurs qui apparaissent, enfin 10 siècles, ça fait peut-être un peu beaucoup, hein, mais au moins quand même beaucoup plus de générations pour arriver à dégager ce qui était dit tout à l'heure, c'est-à-dire la notion que c'est vrai que le bouddhisme, à son époque et par la suite, dans la pensée indienne, est jugé comme ce que nous appelons aujourd'hui une science, d'une certaine manière. Ou un savoir, mettons. C'est-à-dire c'est un ensemble de savoirs. Les bouddhistes ont produit énormément de grammairiens, de mathématiciens, par exemple. Il semblerait peut-être que l'invention du zéro, ou pas, soit de leur fait. Au niveau de la grammaire, il y a eu une réflexion au niveau du langage, je pense, comme on n'avait jamais connu auparavant, au niveau du langage, donc au niveau de la logique. Et pour beaucoup de... Même lorsque le bouddhisme a disparu plus ou moins, enfin plus que moins d'ailleurs, de l'Inde, les gens ont continué à étudier les textes bouddhiques, même les gens qui étaient d'autres écoles, parce que c'était là où ils apprenaient quelque chose. Il y a eu une contagion mutuelle, un échange d'idées entre les mouvements du bouddhisme et l'une des branches importantes du brahmanisme, qui est le yoga. Par exemple, là, il y a eu des échanges extrêmement féconds. Donc, tout ça, ça prend quand même pas mal de temps.
Quelles sont les différentes branches du bouddhisme que vous connaissez, en plus du Zen ?
Ah ben, il y en a beaucoup, hein. Là, ça mériterait un cours, hein. Mais si vous voulez, on peut dire en gros, hein. En gros, pour être bref, on distingue deux grands mouvements qui sont un petit peu différents. Il y a ce qu'on appelle les écoles du petit véhicule, ou l'école des anciens, que vous trouvez essentiellement encore présent en Inde, en Thaïlande et dans l'île de Ceylan, qu'on appelle Sri Lanka maintenant. Donc il y a un mouvement bouddhiste, et puis il y a le mouvement qu'on appelle le grand véhicule, qui est présent essentiellement en Extrême-Orient, Chine, Japon, Corée, Vietnam. Et le zen, si vous voulez, est une des branches du grand véhicule. Donc, si vous voulez, ça demanderait quand même beaucoup de choses. Et puis, il faut voir ça historiquement. D'autres questions ou est-ce que vous souhaitez qu'on en arrête là? C'est comme vous voulez. Parce qu'on peut...
Quand même,
oui.
Pour revenir à l'idée de la science, c'est vrai que c'est une démarche tout à fait nouvelle,
oui,
à l'époque, il y a 2500 ans, et elle n'est pas du tout en contradiction avec la démarche scientifique actuelle.
Non. La preuve, je dirais un petit peu ce qui avait été vu ici, c'est que cette manière de faire, on peut dire que c'est une démarche qui est d'ordre scientifique, c'est-à-dire en premier le constat des choses, ensuite les raisons que l'on suppose aux choses, et puis bon, après là on entre dans quelque chose qui est davantage actif, c'est-à-dire que là on n'est pas simplement observateur, mais on devient agissant.
Et si quelqu'un utilise ce procédé-là, éventuellement, il peut ne pas être obligé de se soumettre à un médecin thérapeute.
Oui.
Faire lui-même sa propre thérapeutique.
C'est-à-dire que ça devient une action de prévention.
Oui.
Ça dépend de la gravité de ce qu'on a.
Oui, voilà, pour être agent.
Ça dépend soit de la gravité de ce qu'on a, soit de l'engagement que l'on a dans la voie.
Elle est dans l'esprit. On sait bien qu'on exploite quoi de notre cerveau? Rien.
Ben oui. Pratiquement. Ben voilà. C'est donc là tout le potentiel.
Si on arrive à maîtriser tout ça, c'est évident qu'on n'a plus besoin de rien. Peut-être même à la limite, on n'aurait plus besoin de manger, de quoi que ce soit. On arriverait à un état de.
Ben, c'est pour ça qu'il y a des.
Les
gens qui n'ont
plus. Oui, non, mais là, c'est dans l'état végétatif qu'il y a donc.
Non, c'est le.
Mais par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'arriver à une situation où on ne mange plus, mais à une situation où...
La cause de l'état d'éveil, c'est la faim. À un moment donné, quand on dit il y a la mort, ça change, on ne va pas continuer à subir. Et c'est à ce moment-là l'éveil, c'est-à-dire de victime, on devient maître et on commence à réagir.
Oui. C'est-à-dire que dès le moment où on passe à l'action... En bien ou en mal, on change l'ordre du monde. Et dès le moment où l'ordre du monde est... Enfin, l'ordre du monde, ça ne veut pas dire que le monde vacille et que tout s'écroule, hein, mais la réalité n'est plus exactement la même. Et donc, dès le moment où la réalité n'est plus exactement la même, où on incorpore ce nouvel état des choses et on agit dans ce nouvel état des choses...
On réagit.
Oui, oui. On est toujours de la façon
d'ordre.
Merci.
Oui, mais l'être humain est dans des génératifs et de toute façon, la mort...
Oui.
De toute façon, un jour, on est face à la fin, de toute façon.
Oui, bien sûr, oui.
Donc, nous parlons, nous sommes des personnes jeunes.
Oui.
Donc, mais un jour, il faudra quand même être face à la,
bien sûr,
à la réalité. Donc là, comment un bouddhiste
réagit
à
ça? Ben,
Non, mais l'idéal, c'est de mourir serein.
Non, mais vous dites, ils sont un culte aux ancêtres.
Comment ?
Non.
Non. Non, non, c'est dans d'autres religions chinoises, ou etc., qu'il y a effectivement le culte de ce qu'on appelle le culte des ancêtres. Alors, c'est vrai que certaines branches du bouddhisme l'ont intégré, parce que c'était quelque chose qui était tellement constitutif de la pensée familiale chinoise que le rejeter, ça aurait été vraiment difficile. Mais il n'y a pas de ce qu'on pourrait appeler de culte des ancêtres chez les bouddhistes.
Les petits temples aux offrandes qui font en permanence.
Oui.
C'est dédié à qui?
Alors ça dépend vraiment des mouvements, hein, c'est difficile de répondre comme ça. Mais comme ce qu'on voit par exemple dans les restaurants chinois, etc. et tout, c'est pas bouddhiste, hein, ce sont des choses qui viennent d'une sorte de. Je sais pas comment, d'animisme ou de je sais pas quoi exactement.
Hein, c'est
oui, voilà, au dieu du sol et tout. Bon, ça,
des,
oui, oui, oui. Bon, ça, c'est pas bouddhiste, ça. Non, non.
C'est pourquoi bouddhiste. Dédié à qui?
Ah, ben, je...
Tout dépend du...
Oui, c'est ça, c'est vraiment des instants, bon, moi, je ne sais pas si je serais très expert, si vous voulez pour en parler, mais c'est dédié à des divinités. C'est-à-dire qu'on est avec ce genre de pensée dans quelque chose où tout est plus ou moins religieux, tout est plus ou moins spiritualisé d'une certaine manière. Les choses, il y a des esprits, quoi. Les choses ne sont pas simples, c'est pas matérialiste du tout comme pensée. Et donc, il y a des offrandes qui sont faites effectivement. Il faut se conseiller. On ne pense pas, par exemple, que la terre est inerte. Donc, par exemple, là, actuellement, le bâtiment est bâti sur la terre de Saint-Mandé, à cet endroit-là. Eh bien, on pense que c'est ça a des qualités, cette terre. C'est pas rien. Ça peut être des qualités parfois qui sont contraires aux êtres humains ou qui sont favorables aux êtres humains. Mais quoi qu'il en soit, il faut se concilier cette chose. Et c'est également quelque chose qui doit être entretenu, qui doit être... il faut se mettre dans les bonnes grâces de toutes ces forces qui existent. Oui. Et rien n'est neutre, en quelque sorte. Alors que pour nous, la terre, c'est de la terre, quoi. Il n'y a pas de problème, c'est assez rien. L'eau, c'est rien, c'est de la flotte. Et tout est rien. Oui. Même la vie, simplement. Je veux dire,
c'est un savoir que nous, en Occident, que possédaient nos générations qui sont passées, que nous avons perdu. Et je pense que le bouddhisme a beau jour devant nous, parce que justement, on a besoin de retrouver quelque chose.
Oui. Parce que.
Est-ce que. Toutes les valeurs, c'est pour ça que le bouddhisme nous a confié, on entend, n'a pas de préconisation. Ne préconise pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui était bien et ce qui est mal aujourd'hui, etc. Et dit à chacun, examinez bien tout autour de vous la réalité des choses et prenez votre décision une fois que vous êtes bien calme, lucide, etc. Oui. Mais sans dire à l'avance que la bonne décision, ce sera plutôt dans tel sens que dans tel autre, la bonne, ce sera celle qui vous fera peu à peu disparaître vos souffrances de telle nature, sans dire à l'avance où est le bien.
Oui, parce que c'est quelque chose qui varie, et même qui varie dans une même vie humaine. C'est-à-dire que ce qui peut me sembler très bien il y a quelque temps ne me semblera plus bien aujourd'hui. Je parle d'un point de vue moral, pas simplement bien. Par contre, il y a quand même l'idée que ce qui est une atteinte, hein, ou ce qui semble une atteinte à la dignité de la vie, à l'existence de la vie, n'est pas bien. Enfin, on pourrait dire que c'est une sorte de constat minimum, hein, parce que on pourrait dire que la morale bouddhiste, hein, d'une certaine manière, dans un premier temps, essayait de ne pas être trop nocif, hein, pour les autres. Hein. Oui, là, je veux dire, vraiment, ne pas être trop nocif pour les autres, hein. Oui, ne pas être trop nocif pour soi non plus.
Oui. Pas en Thaïlande où il n'y avait aucun tourisme.
Oui.
Donc les gens étaient adorables, on était allé manger, tout le monde se mettait en cadre pour nous apporter 6 singes. On est retourné quelques années après, le tourisme est arrivé, tout avait changé, les gens ne se parlaient plus, ils se tiraient dans les pattes pour le profit. Donc tant qu'ils vivaient en autarcie, entre eux, ils pratiquaient ce genre de choses.
Oui.
Mais dès que le tourisme est arrivé, tout ce que ça comporte,
Par rapport à ce que vous disiez, en quelque sorte, il n'y a pas de moralité, c'est-à-dire de petits livres rouges ou de petits livres d'une autre couleur pour indiquer ce qui doit être fait dans telle ou telle circonstance. Oui, les commandements, par exemple. Mais il y a une chose, par contre, qui est indiquée et donnée à tout le monde, me semble-t-il, c'est chercher vous-même. Autrement dit, c'est ça, la mise en mouvement de chacun. Et par rapport à la dernière ligne là, c'est « je suis malade, je vais chez le médecin ». Mais, Et si vous cherchiez vous-même,
ah oui,
autrement dit, il y a là une indication de mise en route du d'un nouveau fonctionnement, et par rapport à il y a 2500 ans, qui était le système des brahmanes, tout était codifié. Tandis que là, c'est justement, prenez votre liberté, assumez votre responsabilité.
Oui, mais dans la religion catholique, c'est la même chose, hein. Dieu a vu que l'homme est responsable de ses actes. À lui de,
je ne suis pas en train de dire le contraire.
Du bien et du mal.
C'est quelqu'un a dit peut-être que le bouddhisme a quelque utilité pour notre civilisation actuelle. Eh bien oui, parce qu'il se peut bien que depuis 2500 ans, nous ne nous sommes pas encore mis sur ce chemin de chercher.
Exactement.
Alors, quand vous disiez, vous, madame, bon, on est jeune encore, pas tout le monde, mais un jour viendra la fin où on sera face à la mort. Mais c'est ici et maintenant, c'est aujourd'hui, c'est tout de suite que chacun on est face à la mort. C'est pas la fin.
C'est
depuis
la naissance.
C'est depuis la naissance. Donc ce qui est là aussi une autre façon de considérer les choses et de considérer la vie. Et de ne pas faire l'impasse.
Oui, tout à fait. Moi, si vous voulez, ce qu'il faut bien voir, c'est que je pense que au niveau de la doctrine bouddhique, c'est important cette notion, par exemple, de la mort. Je ne crois pas que la mort à l'avance soit quelque chose qui soit, événementiel. D'une certaine manière, c'est événementiel quand c'est le moment. Et à ce moment-là, en quelque sorte, le bilan se fait. Mais la vie a été vécue auparavant. Et je pense qu'effectivement, c'est ce qu'au fur et à mesure de cette vie précédente, on a accumulé, il y a l'addition qui arrive. De ce point de vue-là, tant qu'on n'est pas à ce moment-là, ce qui est important, c'est de développer les différents actes qui sont vus, c'est-à-dire la vue juste, la pensée juste, etc.
Oui. C'est qu'au moment de la mort, on
oui.
se dit, mon Dieu...
Oui, non, mais ça, je ne sais pas, c'est possible.
J'ai été
Mais en même temps, si vous voulez, ce que je crois, c'est que pour développer cette vue juste, cette pensée juste, cette parole juste, etc., cette action juste, dans un premier temps, on peut effectivement se fier juste aux choses que l'on connaît et au bon sens, à la rationalité, à tout ça, etc. Mais ensuite de quoi, je pense que ça vaut la peine de connaître justement ce qui est dit dans les textes du bouddhisme qui ont énormément réfléchi sur ce genre de choses, parce qu'on n'est pas détenteur soi-même de toute sagesse. Et il y a déjà ce que je vous ai dit avec les 10 siècles. Il y a déjà un nombre de penseurs qui se sont succédés là-dessus. Non seulement de penseurs, mais de gens qui ont vécu. Parce que certains ont eu des vies très significatives ou très agitées. Et donc, là, il y a quand même quelque chose à apprendre de plus. La preuve, c'est qu'on en parle aujourd'hui, et que je pense qu'en en parlant aujourd'hui et en voyant au fur et à mesure ces différentes choses, il y a des choses nouvelles qui apparaissent, enfin du moins je le souhaite vivement, et qui sont des choses auxquelles on ne serait pas arrivé simplement par l'exercice de son propre bon sens ou quoi que ce soit comme ça. Je crois qu'on a tous à apprendre. Et il faut reconnaître qu'il y a des gens qui nous ont précédés et certains qui ont développé des choses en se fondant sur le même mécanisme, c'est-à-dire sur ce que d'autres qui les ont précédés aussi avaient développé. Alors que ce soit en créant de nouvelles choses par un phénomène d'assentiment ou de rupture, ou de développement, enfin il y a toutes sortes de phénomènes qui font que la pensée peut se développer.
Regardez, aujourd'hui on parle beaucoup de self-control, et
oui.
C'est un mot. L'action ressemble au fait de se poser,
oui.
et de regarder et de réfléchir. Et c'est un mot très moderne.
Oui.
On l'emploie beaucoup maintenant dans la vie professionnelle,
oui.
quand on est face à un problème, on dit le self-control et posons-nous et regardons.
Oui.
Il y a des choses qui vont être
Oui. Ben, on est un peu dans, le phénomène que je vous disais tout à l'heure, mais enfin, à un niveau peut-être plus, plus simple, plus pragmatique de ce que j'ai appelé l'arrêt et l'examen.
Oui.
Mais déjà, c'est mieux, je pense, de, si on peut déjà distinguer deux étapes, l'arrêt et l'examen, que de dire self-control. Parce que se contrôler soi-même, c'est vrai, si à un moment je deviens complètement incohérent et tout, c'est pas peine que je m'exprime trop, quoi. Donc, il vaut mieux se contrôler que d'arriver dans une sorte de licence complète. Mais puis parfois, ça fait également du bien de se défouler aussi, hein. Mais donc, ce qui est important, c'est justement cette espèce d'action réflexive et lucide.
Et un examen,
oui.
D'une situation,
oui.
Acte,
oui.
Si on veut qu'il soit le plus riche possible, il faut détenir peut-être certains savoirs,
oui.
Avoir accès à certains
oui.
savoirs préalables, et donc ça suppose,
oui.
Que vous dites, de prendre le temps de se dire ça fait 1000 ans qu'il y en a qui réfléchissent sur le sujet, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, etc. Ça suppose tout ça. Donc ça suppose tout un tas d'acquisitions de connaissances, de savoirs, des conclusions auxquelles sont aboutis les gens qui ont réfléchi là-dessus, et avant de prendre sa propre décision.
Oui, tout à fait.
Mais quand on se plonge dans ces démarches d'accès à du savoir, préalable au sien, on fait des choix.
Oui.
Et donc, on va choisir ce qui.
Oui.
Ou ceux
oui.
auxquels on a réussi à avoir accès.
Oui. Oui.
Parmi ceux à quoi on a eu accès, à faire un tri,
oui.
un choix,
oui.
et
oui.
puis à choisir plutôt telle orientation que telle
oui.
autre.
Oui.
Et donc, notre choix d'une bonne action pour tel individu à tel moment sera peut-être pas celui d'un autre personne.
Oui, oui. Bien sûr.
Situation.
Bien sûr.
Cette nécessaire connaissance
oui.
et savoir,
oui.
y compris physique, scientifique, astronomique,
oui.
etc., qui
oui.
faire partie
oui, oui, tout. De la tout. C'est pour ça, si vous voulez, que c'est une voie. C'est une voie parce que ce qui importe, ce n'est pas le résultat. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Le résultat est un élément parmi d'autres. Je ne dis pas que le résultat, c'est zéro. Mais le résultat est un élément parmi d'autres. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il faut le reconnaître, je n'ai la pleine... sauf pour des problèmes mineurs, mais je n'ai la pleine connaissance des informations, de tout, qui me permettrait d'une manière toute puissante, en quelque sorte, de dire eh ben voilà, la meilleure solution, c'est ça. Bon, parfois, les choses peuvent apparaître comme ça, et parfois, c'est comme ça qu'on se trompe de la manière la plus patente.
On ne la connaît pas toujours.
Non, non.
Quant à la thérapie, il y en a ou il n'y en a pas.
Oui, oui, exactement. Mais attention, ce n'est pas uniquement physique, hein, ce que je dis là.
Non,
mais donc, pour revenir, oui, tout à fait, mais pour revenir donc à ce que disait monsieur, là où je disais, c'est pour ça que c'est une voie, parce que ce qui importe n'est pas seulement le résultat.
C'est...
Oui. Et après, ok. Donc, à un moment donné, vis-à-vis d'une situation complexe, il m'a semblé que ce qui était, et vis-à-vis des informations que j'avais, des désirs que j'avais, d'un certain nombre de choses, il m'a semblé que ce qu'il y avait de mieux à faire, c'était ça. Ok, ben, on se replace un petit peu après, et je rejuge les choses.
Voilà, c'est ça.
Et là, peut-être que bon, ça peut être été une erreur, mais ce qui est important, c'est le fait qu'à chaque fois, j'en comprenne quelque chose. C'est pas le fait de réussir. Parfois, on apprend davantage de nos échecs. Enfin, bon, il ne faut pas non plus être dans une logique de l'échec perpétuel, un point c'est tout, hein. Mais parfois, on apprend autant de nos échecs que de nos réussites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour différentes raisons, il m'a semblé que le mieux était de faire ça. Et puis après, il s'est passé ça, qui a peut-être été ce que je voulais ou qui était quelque chose de complètement inattendu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut en penser? Et c'est pour ça que là, on est dans un processus qui est dynamique. Et ce n'est pas un processus uniquement de puissance et de résultat. C'est-à-dire que je ne dis pas simplement « il faut à tout prix qu'il y ait ça, et donc je mets tel moyen en face, et donc globalement on doit y arriver ». Ce n'est pas à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est ce qui semble le mieux, il faut effectivement mettre les moyens nécessaires pour y arriver, parce que juste de dire « c'est ça qui serait mieux » et de rien faire, ce n'est pas toujours très productif. Mais ensuite, que le résultat soit bon ou mauvais, être capable d'en tirer les leçons.
C'est très répétitif et mécanique, hein.
Oui. Ben, moi, j'en pense, si vous voulez, vraiment pas grand-chose, mais je pense que vraiment, je pense que là, on est à un aspect de... Alors, dans les moulins à prière en question, il y a des textes bouddhiques, hein, si vous voulez. Et donc, du coup, les textes sont dévidés comme si quelqu'un l'avait lu. Mais le problème, c'est que les textes sont faits pour être lus, non pas pour être dévidés. Enfin, moi, c'est mon sentiment. Je veux dire, s'il y a des bouddhistes tibétains ici, ils ne seront peut-être pas tous d'accord. Mais je pense que ce qui est important, toujours, c'est la signification. Et on gagne en signification. Mais si vous voyez, dans toutes les écoles bouddhiques, vous avez un certain nombre on pourrait dire, de comportements superstitieux, ou etc. et tout.
Autrefois, dans le catholicisme, il y avait les indulgences.
Oui, oui, oui.
C'était aussi aberrant.
Oui. Mais là, au moins, bon, bah, ça fait tourner des moulins, quoi. Parce que finalement, le... il y a déjà un progrès mécanique, parce que les indulgences, bon, c'était quand même financier, quoi. Alors que là, bon, bah, la personne elle-même, elle fait tourner un moulin. Bon, enfin, mais pour moi, bon, c'est un phénomène qui est très, très périphérique et qui est à la limite de, un peu de la magie ou je sais pas quoi exactement, quoi. Donc, c'est... Écoutez, je vous propose, si vous en êtes d'accord, que nous arrêtions là. Je vous remercie pour aujourd'hui.